RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Le sommet de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui à Johannesburg, en Afrique du Sud. À la tête de l'UA depuis le début de l'année, il y a le président zimbabwéen, Robert Mugabe, chef d'État controversé pour ses propos provocateurs, notamment envers les pays occidentaux. À 91 ans, il est non seulement président de l'Union africaine, mais également de la communauté de développement de l'Afrique australe, à savoir la SADC. Voici le portrait d'un homme qui a apporté l'indépendance à son pays et qui le dirige d'une main de fer depuis 35 ans. Grand reportage signé Alexandra Brangeon. Alexandra que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure.
Février 2015, le président Robert Mugabe célèbre ses 91 ans dans un hôtel de luxe près des chutes Victoria. 20 000 personnes sont invitées, au menu de la viande d'éléphant, de buffle et de gazelle. Le pays grince des dents, les festivités auraient coûté 36 millions d'euros, alors que la grande majorité des Zimbabwéens vit avec moins de 2 euros par jour. Au pouvoir depuis 35 ans, le président Mugabe est à la fois vénéré et haï.
This is the voice of Zimbabwe.
This is the voice of Zimbabwe broadcasting on Radio Mozambique in Maputo.
Fin des années 70, Robert Mugabe est à la tête de la ZANU, un mouvement d'opposition au gouvernement blanc d'Ian Smith. Après avoir passé 10 ans en prison, Mugabe se réfugie au Mozambique, où il prend la tête de la branche militaire du mouvement qui compte environ 8000 combattants. Daphne Kanoti avait 15 ans quand elle a quitté l'école pour rejoindre la rébellion. Elle se rappelle des années d'exil à Maputo. C'est là qu'elle a rencontré Robert Mugabe et sa première femme, Sally, avec qui elle a vécu pendant plusieurs mois.
Ils s'occupaient de moi comme de leur fille. Elle, je l'appelais Amai, maman, et lui, Baba, papa. C'était un homme gentil, plein d'attention. Honnêtement, il a fait de bonnes choses, notamment pour la réconciliation nationale à l'indépendance. Quand il a accepté de mélanger ses hommes avec ceux de Ian Smith au Parlement, ça c'était très bien. Nous, on pensait qu'à l'indépendance, tout allait changer, que le Zimbabwe allait être pour tous, pas seulement pour une petite élite. Mais ce que je vois aujourd'hui est très différent. Mugabe est devenu totalement intouchable, on ne peut pas l'approcher. Il ne sait même pas que la plupart des anciens combattants ont du mal à survivre au jour le jour.
I, Robert Gabriel Mugabe, do swear that I will well and truly serve Zimbabwe.
17 avril 1980, le pays devient indépendant. Robert Mugabe, Premier ministre. Il prône la réconciliation avec ses anciens belligérants, le pouvoir blanc d'Ian Smith, mais également son grand rival politique, Joshua Nkomo. Tous vont siéger ensemble au nouveau Parlement. Mugabe tente de bâtir un nouveau pays sur la base d'une alliance entre les Zimbabwéens blancs d'un côté et les deux grandes ethnies du Zimbabwe, les Shona et les Ndebele de l'autre. Pour l'évêque d'Harare, Chad Gandia, Robert Mugabe est un héros aux yeux de nombreux Zimbabwéens, car il a apporté l'indépendance et l'unité.
Il a rétabli la dignité des gens alors qu'il est à la tête de ce pays et qu'il est très critiqué, à tort ou à raison. D'ailleurs, il reste très populaire. Une des raisons à cela, c'est que nous pensons qu'il fait passer l'intérêt de la population en premier. Il dit ce qu'il pense. Il n'est pas vu comme quelqu'un qui fait des coups par derrière. Si vous faites quelque chose qui ne lui plaît pas, il vous le dira en face. Par exemple, nos relations avec l'Europe. Nous savons que nous continuons de recevoir une aide financière de l'Europe et de la Grande-Bretagne. Mais cela n'empêche pas le président Mugabe de critiquer ce qu'il estime être des injustices de la part de l'Angleterre, l'ancienne puissance coloniale.
But he is not spared a word about what he sees as injustice done by Britain, for instance.
Et justement, parce qu'il est capable de tenir tête, même si cela fait mal, les gens le perçoivent comme un homme de principe.
If it hurts, people interpret that as being principled.
Nous sommes à Dziva Rezekwa, un quartier pauvre à 20 km à l'est de la capitale, Harare. 35 ans après l'indépendance, il n'y a toujours pas de route pavée ni d'électricité. Les maisons sont délabrées. C'est ici que travaille le père jésuite Oscar Wemter, arrivé au Zimbabwe il y a 40 ans. Il se rappelle de l'espoir suscité par les premières années du gouvernement Mugabe.
Il était plutôt sympathique et pour lui, c'était évident qu'il allait avoir besoin de l'Église pour reconstruire le pays. D'ailleurs, il a fait de bonnes choses au début. Il a développé l'éducation en construisant des écoles, surtout dans les zones rurales. Il a développé le secteur de la santé en construisant des hôpitaux d'État. Donc, nous étions prêts à travailler avec lui. La première crise est arrivée après le massacre de Gukurahundi dans le Matabeleland et après la guerre qui a eu lieu dans cette région. C'est la première fois que l'Église a critiqué ce nouveau gouvernement et Mugabe a répliqué avec férocité, comme il le fait à chaque fois qu'il est attaqué.
Gukurahundi, c'est le premier gros dérapage du nouveau gouvernement. En 1983, une unité spéciale de l'armée massacre environ 20 000 personnes de l'ethnie Ndebele, une population du sud du pays qui est accusée de soutenir une rébellion contre le gouvernement. La lune de miel aura duré peu de temps. Rapidement, Mugabe s'impose comme un dirigeant autoritaire qui ne tolère aucune opposition et veut instaurer un parti unique, la ZANU-PF. La deuxième grosse crise aura lieu début 2000. En perte de popularité, Mugabe lance sa réforme agraire, l'expropriation forcée des terres des fermiers blancs qui se fait dans la violence et ravive les tensions raciales. Des milliers de fermiers blancs quittent le pays. L'Union européenne et les États-Unis décident alors d'imposer des sanctions contre le président zimbabwéen et ses proches. En 2008, nouveau pic de violence avec les élections présidentielles. Mugabe, candidat pour la troisième fois, fait face à une opposition sans précédent. La campagne électorale se fait dans un climat de peur. Des milliers de Zimbabwéens sont arrêtés et torturés pour avoir soutenu l'opposition. Parmi ceux qui ont soutenu le chef de l'État pendant toutes ces années, Didymus Mutasa, un des plus vieux compagnons d'armes de Robert Mugabe, successivement Premier ministre du Parlement juste après l'indépendance, ministre des Affaires présidentielles, ministre de la Sécurité. Aujourd'hui, Didymus Mutasa reconnaît les erreurs commises, à commencer par la réforme agraire.
Quand nous avons fêté notre journée d'indépendance en avril dernier, certains d'entre nous ont dit « Qu'y a-t-il à célébrer ? Il n'y a pas d'électricité et les travailleurs ne sont pas heureux parce que tout est en ruine. » Alors pourquoi fêtons-nous cette journée ? Pour chanter les louanges de Robert Mugabe ? Non, nous avons dépassé tout cela. Nous avons le sentiment d'avoir été trahis et qu'en faisant partie de ce gouvernement, nous avons nous-mêmes trahi notre peuple.
Après de 30 ans passés à la ZANU-PF, Mutasa a été exclu du parti en décembre dernier. Il est accusé d'avoir soutenu la vice-présidente du pays, Joyce Mujuru, et d'avoir tenté de renverser le président Mugabe.
Nous voyons qu'il a changé. Le Mugabe d'aujourd'hui n'est pas celui que nous connaissions en 1980, au moment de l'indépendance, après les années de lutte. Ce n'est pas le même que quand il était en prison. Je pense que c'est un Anglais, Lord Acton, qui a dit « Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument ».
And absolute power corrupts absolutely. This is what the president.
C'est ce que le président voulait. Il voulait le pouvoir absolu, et c'est ce qui va le détruire.
And that is what is going to destroy him.
Aujourd'hui, l'économie du Zimbabwe est sous perfusion. La population survit de petits boulots. Le pays s'est désindustrialisé. La production agricole a chuté. Le taux de chômage est de plus de 80%. Le gouvernement a même dû abandonner sa monnaie nationale après une décennie d'hyperinflation. Aujourd'hui, tout se paye en dollars américains ou en rand sud-africain. Pour l'analyste politique Pedzisai Rouhania, le bilan est désastreux. Après 35 ans au pouvoir, Robert Mugabe laisse un pays en ruine.
Je pense qu'il a fait plus de mal que de bien. Certaines de ses réformes ont mené le pays là où il est aujourd'hui, alors qu'il y avait besoin de démocratiser l'accès à la terre. Ce n'était pas la peine de tuer. Il ne respecte pas l'état de droit. Il y a des Zimbabwéens blancs qui sont nés ici et qui n'ont jamais connu d'autres pays. Ce n'était pas la peine d'en faire des victimes. Oui, on se rappellera de lui et des autres comme ayant libéré le pays, mais on se rappellera également d'eux comme ayant détruit ce pour quoi ils se sont battus. Mugabe pratique les mêmes méthodes que ce contre quoi il s'est battu. Les gens dans ce pays se sont battus parce qu'ils n'avaient pas de droits. La liberté de se rassembler, de s'exprimer, de former un mouvement politique. Ils se sont battus parce qu'ils n'avaient même pas le droit de se rassembler, de protester. Mais Mugabe ne nous laisse pas nous rassembler et protester. Donc il y a peu de différence entre lui et l'ancien leader Ian Smith, à part la couleur de leur peau.
Régulièrement, Daphné Canotti, l'ancienne combattante, retrouve ses compagnons de lutte. Tous sont amers. Eux qui ont sacrifié une partie de leur jeunesse ont le sentiment de ne pas avoir obtenu ce pour quoi ils s'étaient battus.
Les gens ont fait la guerre pour avoir de la terre, mais la réforme agraire a été menée d'une mauvaise manière. Ceux qui ont bénéficié des terres, ce sont les amis de Mugabe. Ce sont les mêmes qui ont eu droit à 3, 5 ou 10 fermes. Ceux qui étaient censés recevoir la terre n'ont rien eu. Il y a largement plus de choses qui ne vont pas aujourd'hui que de choses positives qui ont été réalisées. Si vous allez dans les hôpitaux, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Les médecins ne sont pas payés. Dans les pharmacies, il faut donner de l'argent pour avoir des médicaments. Mais où est-ce que vous trouvez de l'argent quand il n'y en a pas qui circule dans le pays ? Les gens veulent du changement. Vraiment, Mugabe est resté trop longtemps au pouvoir. Des fois, je me demande, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on s'est battu ? Is this what we fought for ?
Aujourd'hui, 3 des 4 enfants de Daphné ont quitté le Zimbabwe pour trouver du travail à l'étranger. Selon l'Organisation internationale des migrations, près de 5 millions de Zimbabwéens ont quitté le pays en 15 ans, soit environ un tiers de la population. Cinq ans après l'indépendance, le président Robert Mugabe a perdu de nombreux alliés et apparaît de plus en plus isolé à la tête du pays. Robert Mugabe, un président isolé, un grand reportage d'Alexandra Branjon et de Souel Kedir.
Alexandra Branjon, on vient d'entendre votre grand reportage sur le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, au pouvoir depuis 35 ans. Un président qui est de plus en plus contesté.
Oui, tout à fait. Les opinions sont très partagées au sujet de Robert Mugabe. Il est à la fois respecté et haï. Même si on reconnaît qu'il est le père de l'indépendance, qu'il a mis fin au régime raciste d'Ian Smith, qu'il a beaucoup fait lors des premières années en termes d'éducation, de santé, il a aussi beaucoup déçu. On l'entendait dans le reportage, la réforme agraire a-t-elle vraiment profité à tous et notamment aux petits paysans? Des gens comme Daphné Canotti, cette combattante qui a rejoint la lutte à l'âge de 15 ans, le dit. Elle a arrêté ses études, elle est partie se battre. Ça a été une expérience traumatisante pour elle. Elle m'a parlé de ses amis qui sont mortes au combat, de blessures, de maladies, d'épuisement, du manque de nourriture. Et aujourd'hui, ces combattants se sentent abandonnés. Déception vis-à-vis du parti, qui est de plus en plus corrompu. Et puis tout simplement déception parce que économiquement, le pays va mal et qu'une grande majorité de la population a du mal à s'en sortir.
Alors cette question, est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par les membres du parti de Robert Mugabe, à savoir la ZANU-PF ?
Difficile à dire, ça reste quand même compliqué de parler aux gens qui ont peur de s'exprimer ouvertement. Par exemple, dans cette banlieue pauvre où je me suis rendue, par l'intermédiaire du prêtre qu'on a entendu dans le reportage, j'ai rencontré un jeune de 25 ans qui lui s'est exprimé très ouvertement, mais à l'intérieur de la paroisse, et lui le dit clairement, pour les pauvres, rien n'a changé, tout le monde autour de lui souhaite que le président Robert Mugabe quitte le pouvoir, ils veulent du changement. Pour répondre à votre question sur le sentiment même au sein de la ZANU-PF, ouvertement, les gens vous diront que du bien de Robert Mugabe, mais en privé, certains, notamment les classes moyennes, un peu plus éduquées, disent qu'ils veulent du changement. 35 ans au pouvoir, c'est trop long. Et pourtant, ils vous répondront que Mugabe n'est pas responsable des problèmes du pays, qu'il est mal conseillé par son entourage. Une personne intéressante dans ce reportage, c'est Didymus Mutasa, qui a été un des proches de Mugabe pendant 30 ans et qui aujourd'hui est tombé en disgrâce et donc est devenu très critique. Il cite un lord anglais, « le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu ». Corrompt absolument. C'est une citation qui résume bien la situation.
Alors, un mot tout de même sur la situation du pays. On l'a entendu à la fin de votre grand reportage. Ils sont plusieurs millions à avoir quitté et continué de quitter le Zimbabwe.
Oui, rien qu'en Afrique du Sud, ils sont 2 à 3 millions. La plupart sont partis début des années 2000, au moment où l'économie était vraiment au plus bas, et renvoient de l'argent pour faire vivre leur famille, rester au pays. Il y en a aussi qui ont quitté le Zimbabwe pour des raisons politiques, notamment après les élections de 2008, qui ont été très violentes. Je vous rappelle que l'opposition, le MDC de Morgan Tsvangirai, a failli remporter ces élections. Certains disent d'ailleurs que l'opposition a gagné. Durant la campagne électorale, il y a eu de nombreuses arrestations, des intimidations et torture de supporters de l'opposition. Et donc, il y a également ici, en Afrique du Sud, des réfugiés politiques, journalistes, activistes.
Alexandra, pour finir, un mot sur les conditions de votre reportage, puisqu'en tant que journaliste, on ne peut pas travailler véritablement ouvertement.
Oui, comme beaucoup de journalistes, je suis entrée dans le pays avec une accréditation officielle pour travailler sur un tout autre sujet. Donc, ça limitait les personnes à qui je pouvais parler. Notamment, je ne pouvais pas interviewer de haut cadre de la ZANU-PF ni du gouvernement, puisque je n'avait pas les autorisations. Et il a fallu faire ces interviews relativement discrètement, donc pas en public, pas dans la rue.
Ce sera le mot de la fin, un grand reportage, bien évidemment, à réécouter dans son intégralité sur RFI.fr. Alexandra Bonjon, merci beaucoup. Écoutez,